أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous étions arrivés à l'épisode passé sur une question très importante concernant la révélation. Et nous allons essayer, incha'Allah, avec ce qui nous ont resté comme étant bien des éléments pour qu'on puisse vraiment vous donner ces enseignements concernant la révélation. Et nous avons essayé de dire dans l'émission passée que nous allons essayer de vous expliquer, incha'Allah, le sens vrai de la révélation et la prophétie. Ces deux, parce que nous avons parlé un peu de la prophétie la séance passée, et nous avons dit que le prophète, il est nécessaire dans notre vie, parce que lorsque nous sommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons pour mener une vie, mais une vie que celle soit et sociale. Donc en réalité, que l'être humain, il est sociable de nature, il se doit de vivre en société avec ses semblables, et cette vie en société avec les semblables consiste réellement à respecter des règles bien définies. Donc dans ce cadre, mes chers frères et sœurs, nous parlons peut-être que celui-là même qui doit essayer d'établir cette règle pour que la règle puisse être réellement totale et vraiment suffisante pour une vie sociale pour les êtres humains, et je crois bien que ça doit être celui-là même qui maîtrise la création de l'être humain, parce que l'agent principal de cette vie sociale que l'être humain qui existe sur terre, et c'est rien d'autre que l'être humain, il est au centre de cette vie. Et les animaux domestiques viennent l'entourer, l'environnement, etc. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, que cet être-là puisse réellement recevoir des lois de la part de celui-là même qui respecte le sentiment de ses créatures, c'est-à-dire l'être humain, aussi bien. Et il connaît effectivement cette partie, cette entité est très importante, qu'il connaisse réellement l'être humain, que lui-même, et ses limites, ses capacités, etc. Donc il était vraiment à ignorer effectivement que l'être humain puisse être quelque part, des lois puissent être dictées et légiférées pour des êtres humains qui n'ont pas cette capacité de respecter ces lois-là. Ça ne fait pas partie de la sagesse de celui-là même qui légifère ces lois, qui propose une loi qui puisse réellement équilibrer la société humaine sans pourtant connaître l'être humain en profond. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, cette connaissance d'abord, avant de réellement apporter une loi à cette humanité. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions aussi parler de ce Dieu qui maîtrise mieux, et que cette loi ne soit pas faite par des sentiments personnels, mais qu'elle soit faite réellement pour équilibrer et faire épanouir la société et tout ce qui va dans le sens de l'épanouissement de cette société, dans le sens de la libération de cette société, dans le sens réellement de vivre ensemble de cette société, dans le respect effectivement de semblables, vice-versa, entre l'être humain et ses semblables, l'être humain et l'environnement, l'être humain et les animaux qui l'entourent. Donc effectivement, l'être humain, il est au centre de cette vie sociale, donc il est de nature sociale et sociable. Donc il est important qu'on puisse l'amener quelqu'un qui puisse le conduire, qui a le même sentiment que lui, qui voit les mêmes choses que lui, qui a des mêmes natures que lui, et cette personne doit être dotée vraiment d'une connaissance aussi suffisante pour qu'il puisse réellement leur proposer une loi aussi bien équilibrée et bien définie ou aussi très facile à porter sur le dos, que l'être humain, dans ce cadre-là, se retrouve étant bien libre avec ses lois et aussi parti vers la perfection infinie qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cadre-là, il est nécessaire que nous puissions faire appel effectivement aux prophètes lorsque les prophètes sont là et puis que nous puissions demander vraiment les voies qui puissent vraiment nous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala effectivement dans sa grâce et dans sa sagesse aussi nous envoie des prophètes en réalité. Mais les prophètes viennent nous donner des enseignements et cet enseignement et c'est ce qui est instrumé dans le cadre de l'islam comme étant bien al-wahi. Donc on parle de la révélation et nous allons y arriver aussi à la prophétie. Pourquoi alors les prophètes sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala? Quels sont les apports favorables que les prophètes nous apportent en tant que des êtres humains? Et aussi, pourquoi alors Allah subhanahu wa ta'ala voit aussi très nécessaire qu'il puisse nous envoyer un être aussi semblable que nous, qui est de même nature que nous, afin de nous communiquer ce message divin. Donc, lorsque nous en parlons d'un nabi, c'est-à-dire que le prophète, qu'est-ce qui est réellement le prophète? La compréhension du prophète. On a dit que le prophète est découlé, c'est dérivé du nom, un naba, c'est-à-dire que une bonne information, une bonne nouvelle, une nouvelle d'une importance aussi très capitale. Et il y en a qui disent que ça vient de Bono, Obani, Wabana, et on dit que réellement cette loi, c'est le fait de le côté plus élevé de l'être humain, hein, un nouveau plus élevé. Et donc, en réalité, si c'est le nouveau plus élevé, celui qui a une largesse aussi bien ample, il a une largesse dans les dons bien partant, donc on parle de prophètes. Mais ce qui est plus important, c'est que dans ce cadre-là, les prophètes ont été, la prophétie a été définie et les prophètes comme étant bien de ceux-là même qui nous apportent des nouvelles aussi, d'une nouvelle aussi très capitale pour la construction de l'être humain en tant que l'être. Et c'est ce que le Allama Hilli, il essaie de nous expliquer en réalité qu'est-ce qu'il veut dire al-wahi, et aussi qu'est-ce que veut dire un nabi. Effectivement, il dit que un nabi huwa al-insan mukhbir an Allah bighayr wasita ahad min al-bashar. Il dit que le prophète n'est rien d'autre qu'un être humain, il est de nature de l'être humain, qui annonce, qui est un annonciateur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun intermédiaire, il est aussi un être humain, naturellement. Donc, vous pouvez comprendre en cela que la prophétie, lorsque vous essayez de voir aussi, lorsque le prophète, le Coran nous rencontre la prophétie, le Coran nous dit que il y a certaines prophéties, ça se passe réellement directement et indirectement. Et c'est ce que nous pouvons comprendre dans le Saint-Coran. Il dit ceci que il y a des prophéties qui viennent directement, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle son message au prophète directement sans l'intervention d'un ange, de la révélation de l'ange Gabriel et autres. Directement, il inspire, il envoie ce message dans le cœur de son prophète. Le prophète aussi reçoit ce message et de son tour, il fait de ce message ce qui lui est demandé. Il y a des révélations directes et des révélations indirectes. Lorsqu'on parle des révélations indirectes, ce sont des révélations qui sont apportées au prophète Mohammed et aux autres prophètes par l'entremise de l'ange Gabriel, alayhi salam. Et dans les conditions bien définies, respectant bien sûr les causes de la révélation de ces versets-là. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre cela. Il y a aussi le deuxième cas lorsqu'on parle de la révélation. La révélation, ce n'est que le fait d'indiquer, d'indication dans la littérature, qu'est-ce qui veut dire un message en réalité, ou aussi une parole. La révélation, al-wahy, peut englober littéralement tous ces noms-là, toutes ces significations, bien sûr. Mais effectivement, lorsque vous essayez de revenir sur le Coran, vous allez trouver que le Coran nous présente quatre formules, quatre manières, quatre différentes sortes de wahy. Il nous explique effectivement comme étant bien une indication cachée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala essaie de faire inspirer à une personne. Il y a aussi l'instinct naturel lorsqu'il inspire ces animaux, cet instinct naturel dans leur création. Donc on parle de al-hidaya al-taqwiniya, la guidance naturelle. Donc il est demandé aux anges, aux êtres humains, par exemple les abeilles, dans ce cadre-là, dans la sourate Abeille, verset 68, vous pouvez voir ce verset. Il y a aussi l'inspiration dans la cachette pour ne pas que les autres puissent être informés de la sorte. Cela veut dire que vous pouvez trouver une personne parmi vous. Allah peut réellement l'inspirer d'une chose sans pourtant que vous soyez au courant ou informé de cette situation. Donc, comme il s'est passé pour la mère de Moussa alayhi salam, effectivement. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs formules de wahy. Donc, on rentre réellement la quintessence de wahy. Qu'est-ce qui veut dire réellement al-wahy et qu'est-ce qui est réellement al-wahy? Al-wahy, vous voyez, lorsque vous essayez de voir, il y a eu plusieurs explications autour de ce sujet concernant la révélation. Que ce soit les occidentaux, les savants occidentaux ont essayé d'expliquer la révélation et de leur manière. Mais effectivement, ces phénomènes-là, en réalité, lorsqu'on veut parler de la révélation, c'est un phénomène qui est aussi très symbolique. Hein? C'est symbolique et aussi fait par des codes. Allah subhanahu wa ta'ala peut seulement décoder et déchiffrer cette révélation et son prophète. Donc, nous ne pouvons pas essayer de déchiffrer ce qui est réellement la quintessence de Al-Wahy, c'est-à-dire la révélation. Nous ne pouvons pas déchiffrer le sens réel et profond de la révélation parce que nous sommes incapables, ça dépasse effectivement l'entendement de l'être humain. Seul Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète peuvent essayer de déchiffrer ou décoder la révélation et nous parler de la quintessence de cette révélation. Donc, en fait, lorsque vous essayez de mettre ces choses, vous allez vous trouver que les preuves réellement pour An-Nubuwa, c'est-à-dire que la prophétie, quelles sont les preuves de la prophétie? Il y a la preuve de la prophétie, c'est que l'Asha'irite, hormis l'Asha'irite, avec l'idéologie que l'école Asha'irite apporte sur la question de la justice divine que nous avons traitée, que la raison de l'être humain, elle est incapable de comprendre ou la philosophie des lois islamiques et essayer de saisir réellement le sens vrai de ces lois est incapable. Donc, il dit cela. Mais il faut comprendre que le fait de la nécessité des lois, pourquoi alors Allah révèle ses recommandations et ses interdits à son prophète et le prophète de son tour nous communique ces recommandations divines. Il refuse catégoriquement le rôle de la raison dans la compréhension des interdits et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette école est ignoré, donc parlant de la philosophie et le sens profond et la nécessité de la prophétie est insensé réellement pour cette école. Mais lorsque vous essayez de revenir, mes chers frères et sœurs, sur l'école Mu'tazalite et Imamite, vous allez trouver effectivement de façon claire qu'ils acceptent en réalité les lois islamiques et ils acceptent aussi que la raison peut essayer de déchiffrer certaines philosophies de cette loi, ces recommandations. La raison peut comprendre certaines lois sans pourtant qu'il y ait l'intervention de la révélation. Donc, dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, il est important qu'on puisse parler al-qubhu wal-husn al-dhati. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas bien, les choses horribles. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala peut donner cette force à la raison de l'être humain, à l'intelligence de l'être humain, de comprendre certaines choses. Mais l'autre chose, la révélation vient pour compléter ou parachever ces enseignements qui sont imprégnés dans notre nature. Lorsque vous avez ces éléments, il est important, mes chers frères et sœurs, mais Al-Mu'tazilah wa Imamit, ils disent que Dururat al-Ithbat, c'est-à-dire que la nécessité de prouver en réalité des preuves sur la prophétie sont vraiment beaucoup. Mais ils trouvent comme étant bien la preuve la plus nécessaire, comme étant bien qa'idatul lutf, c'est-à-dire la règle de la faveur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous mettre dans ce bas monde, et effectivement, il nous a fait aussi des faveurs. Ça fait partie de ces faveurs, c'est ce qui nous a accordé la vie. Il nous a créé la terre, il nous a créé le sommeil pour le repos, et etc., etc. Mais ce qui est plus important de ces faveurs-là, il nous a créé cette doctrine du faveur, du respect du faveur divine. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il fait partie de sa faveur qui est la règle du favoritisme qu'il a essayé de favoriser l'être humain. كُلُّ مَا يُقَرِّبُ الْعَبْدُ إِلَى الطَّاعَةِ وَيُبَعِدُهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. Il a essayé de révéler des règles bien définies qui puissent rapprocher l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le respect de ses lois et aussi l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le non-respect de ses recommandations. Il est important que nous puissions aussi vous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant, réalité, de tout ce que nous allons poser sur cette terre lorsqu'il s'agit du bien, de nous donner une récompense qui puisse nous amener au paradis infini. Mais aussi de l'autre côté, il nous a promis aussi que tout ce qui est interdit lorsque nous nous menons à commettre ces péchés, et les péchés ne peuvent être que des sources et des causes principales pour nous amener vers l'enfer, que le Seigneur nous en garde. Donc en réalité, il y a la règle de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi qu'on appelle la règle raisonnable, philosophique, et que nous pouvons s'exprimer ainsi. L'être humain, il est en cours de perfectionnement, il doit se perfectionner chaque jour, et c'est ce qui est demandé à l'être humain, de se perfectionner. Et cette perfection ne peut se manifester à l'être humain que dans le cadre du respect des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi des recommandations des règles et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dicté, et aussi la prophétie et la traduction de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces mouvements sont faits seulement que pour nous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est important aussi, mes chers frères et sœurs, si en réalité Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa grandeur, a essayé avec la faveur qu'il nous a accordée et aussi la raison qu'il nous a donnée que nous devons essayer de partir vers le perfectionnement, il y a tout ça, mais alors, quel est le rapport avec le besoin de l'être humain? L'être humain n'a pas besoin de ces lois, n'a pas demandé en réalité ces lois. Et j'allais vous dire que non, l'être humain, il a essayé de demander, effectivement, et cette demande se fait en réalité dans le cadre de la loi, dans la création, parce que l'être humain a été créé étant bien social et sociable. Celui qui doit lui proposer si je peux m'exprimer ainsi, ces règles, en fait, doit être effectivement quelqu'un qui connaît bien l'être humain, qui connaît aussi ses détails et ses sentiments, qui puisse donner une loi et dicter une loi qui puisse vraiment arranger la société humaine, mais pas seulement arranger, mais que cette loi ne puisse pas être un fardeau insupportable pour les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il nous dicte des lois qui ne seront pas aussi, inshallah, lourde pour notre responsabilité devant lui. Et c'est ce qui est dit là, Rabbana la tu'akhidna in nasina awaqtana. Seigneur, ne nous juge pas in nasina si nous oublions par les oublis, awaqtana ou par les erreurs. Rabbana la tu'akhidna in nasina awaqtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta alladhina. Voilà, tu hamilna mala taqata al-nabi. Le Seigneur, il nous révèle cela dans le surat la vache pour dire que ne porte pas sur notre dos, sur notre fardeau, ce que nous ne pouvons pas supporter. Et Dieu essaie de nous dire quelque part, c'est un message qui est derrière cela. C'est une bénédiction, bien sûr, mais aussi il y a un message derrière. Et le message dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'apporte pas une loi, quelque chose à l'être humain qui serait peut-être insupportable pour lui. Donc dans ce cadre-là, mes chers frères, il est important que nous puissions réellement vous révéler cela pour dire que c'est dans ce sens-là que nous pouvons réellement agir dans le respect de ces lois-là. Donc il y a cette question, lorsqu'on parle de la prophétie, il est demandé souvent, les gens se posent la question concernant la justice divine et la prophétie, demandant pourquoi moi je n'ai pas été nommé ici bien prophète, et pourquoi lui ? Et vous voyez, les prophètes ont été choisis, ça c'est le premier point, c'est le choix de Dieu. Et nous n'avons pas le choix devant le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Dieu. En réalité, ces prophètes-là, lorsqu'on choisit une faute prophète, c'est pour venir enseigner les autres. Et si en même temps tout le monde était prophète, l'enseignement n'aurait pas lieu et n'aurait point de prophète. Donc en réalité, voilà comment nous pouvons essayer de juger et ces points-là, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'être humain qu'il puisse avoir besoin de ses lois. Mais celui-là même qui dicte les lois doit maîtriser la création de l'être humain qu'il est composé de côté spirituel et le côté physique. Donc il doit mieux maîtriser le côté spirituel et le côté physique pour que la loi soit équilibrée entre ces deux éléments. Et effectivement, et c'est ce que nous constatons, que Dieu, il est le créateur de l'être humain. Il connaît l'être humain mieux que lui-même. Dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, il y a aussi des valeurs ou des profits lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoie les prophètes. Le premier profit d'abord, c'est de mettre un équilibre dans la société. Vous voyez, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé au Mekwa, et vous allez trouver qu'il y avait des conflits entre les Mekwa, le prophète avec sa prophétie, et avec sa sagesse qui le domine, il essaie de faire disparaître ce conflit et ces différends, et de mettre les Mekwa et les Médinois ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons besoin d'un conducteur qui puisse nous amener vers la perfection qui est si recherchée par Allah subhanahu wa ta'ala, aussi par l'être humain. En réalité, c'est le but de la création de l'être humain, mais partie à la recherche de cette perfection dépend de la capacité de l'être humain et de l'intention qu'il amène et sa propre volonté. Et c'est ce qui rend d'ailleurs plus intéressant ce perfectionnement-là. Et ce qui nous amène réellement, la prophète, c'est de nous enseigner Al-Kitab, c'est-à-dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement l'enseignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un but bien recherché, et ce but-là, ce n'est rien d'autre que nous puissions augmenter notre connaissance en Dieu. Et effectivement, lorsque le prophète vient, il vient en tant qu'un être humain, pas un ange, pour dire aux êtres humains que Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi comme prophète pour vous, mais afin que je puisse vous conduire, et pour que vous soyez bien conduits, et je souhaite être une référence pour vous dans le respect des lois. Donc les prophètes, ils respectent réellement les lois, ce sont des références bien définies, donc il a été uswa hasana, une bonne référence pour toute l'humanité. Donc en réalité, c'est ça qu'on parle de la prophétie, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous en garde, et les prophètes doivent toujours exister, ou soit les traces, et ceux-là même qui doivent venir les succéder, pour bien mener la société vers vraiment à la recherche de cette perfection individuelle ou sociale, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.